La biodiversité, c'est la nature, mais c'est aussi de l'histoire dans nos pays où l'on a une pression humaine très importante depuis des millénaires. Donc là, nous allons vous présenter quelques résultats qui ont été obtenus sur des programmes menés dans le cadre de l'Observatoire au même milieu, Vic de Sceaux, sur l'histoire de la forêt liées aux activités minières et métallurgiques. Bon, rapidement, pour présenter les paysages, il s'agit des vallées d'Aulus et Vic de Sceaux sur lesquelles nous avons travaillé. Bon, les vallées d'Aulus, des vallées très boisées, humides, les vallées de Suc et Saint-Enag, le port de l'Hers, la tourbière de la Bernadouze et la région de la vallée de Siguer avec la forêt de l'Hercoul. Voilà à peu près. Très très vite, le principe de base, on va vous présenter un peu les méthodes. Ce sont des recherches qui ont été engagées déjà il y a assez longtemps, presque un quart de siècle, notamment sur l'ensemble de l'Ariège, et qui sont réinitiées avec de nouvelles méthodes, de nouveaux outils pour approfondir cette question de la relation entre les sociétés montagnardes et l'environnement forestier. Je passe la parole à Vanessa.
Merci Jean-Paul. Donc je vais continuer et vous présenter le projet de recherche FODINA et ses principaux résultats. Donc ce projet porte sur les mines, la métallurgie et leur interaction avec l'évolution du couvert forestier dans la région de Vic de Sceaux et ses abords. Alors vous le savez sûrement, cette région est riche en dépôts de minerais et les principaux, ce sont les minerais de fer. Et l'activité s'est concentrée dans le massif du Rancier. Cette activité est documentée depuis plusieurs années par des données historiques et archéologiques qui ont permis de placer le début de l'activité pendant l'époque romaine. Et cette activité minière et métallurgique a perduré jusqu'au XXe siècle. Évidemment, cette production de fer a généré une importante consommation de bois, donc a eu forcément un impact sur le couvert forestier, impact qui est devenu grandissant avec l'invention et le développement de la technologie de la mouline à la fin du XIIIe siècle, donc la mouline qui est une sorte de haut fourneau qui utilise la force hydraulique et qui par conséquent permet de traiter plus de minerais et qui demande plus de combustible. À côté de la région de Vic de Sceaux, dans les montagnes d'Aulus, nous avons d'autres minerais qui ont été exploités de façon très importante, ce sont les minerais argentifères. Donc on a une première mine qui est celle de Castelminier, qui est étudiée par un collègue du CNRS qui s'appelle Florian Térégéol et qui étudie également une mouline. Et juste à côté, c'est le point jaune, vous avez le site des Argentières-Lacor, site un peu moins connu et un peu moins documenté par l'archéologie. Il est situé juste à côté du col de Port de Salex qui relie le Couseran au Vic de Sceaux. Vous avez ici une frise chronologique qui rassemble la documentation historique et archéologique dont on disposait concernant ce territoire. La première chose que je cherche à mettre en évidence ici, c'est une absence de documentation écrite ou archéologique pour la période qui est antérieure au XIIIe siècle. En vert, sur cette frise, vous avez les phases d'activité minière à proprement parler. La plus importante, qui est située aux alentours du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIVe siècle, concerne l'exploitation de l'argent dans le secteur de Castelminier. La mouline de Castelminier a quant à elle fonctionné du XIVe siècle au courant du XVIe siècle. Ensuite, vous avez deux petites phases très restreintes d'activité au XVIIIe et au XIXe siècle qui concernent le site des Argentières-Lacor, qui nous préoccupe plus particulièrement ici. Et enfin, le dernier point important à mettre en évidence ici, c'est le traité d'échange fer-charbon qui a été noué entre le Vic de Sceaux et le Couseran entre 1347 et 1348. Alors qu'est-ce que c'est ce traité? Eh bien, ce traité a été noué entre le comte de Foix, le vicomte de Couseran et la communauté de Vic de Sceaux, et il consistait à échanger le minerai de fer de Vic de Sceaux contre les charbons, le charbon de bois qui était produit dans le Couseran. Donc on a interprété ce traité connu par une copie du XVIIIe siècle comme un moyen de valoriser l'industrialisation, le processus industriel dans le Couseran en pouvant alimenter par du minerai les moulines et concernant le Vic de Sceaux, ce traité pouvait être un moyen de ralentir la pression sidérurgique sur la forêt. Sur ce secteur, il y a d'autres activités, pas seulement minières et métallurgiques, mais évidemment l'agropastoralisme et le pastoralisme, qui ont laissé des traces importantes dans le paysage. Vous avez ici l'exemple d'enclos qui sont sur le plateau de Coumebière, qui est tout à côté du port de Salex. La superposition de toutes ces activités au sein d'un territoire de montagne particulier a focalisé notre attention. Et c'est ici qu'on a commencé à développer le projet Faudina. Évidemment, je l'ai déjà dit, mais je me répète parce que c'est très important, ces activités minières et métallurgiques nécessitent une consommation de bois importante. Ici, vous avez un schéma simplifié de la chaîne opératoire de l'argent, depuis son extraction jusqu'à la production d'objets finis. Et ce que je veux mettre en évidence, c'est que le bois était nécessaire à toutes les étapes de cette chaîne opératoire, depuis l'extraction avec l'utilisation de l'abattage par le feu, jusqu'à la transformation du minerai en métal. Et c'est la même chose pour le minerai de fer, qui lui consomme encore plus de combustible que les minerais argentifères, avec une chaîne opératoire plus complexe. Donc, la grande question, impact sur l'environnement de ces activités. Donc, on a commencé par essayer d'inventorier, documenter et étudier les vestiges archéologiques présents dans la montagne d'Aulus. On a identifié précisément deux secteurs miniers, celui des argentières, composé de trois secteurs, celui des ateliers de la Butte et de Coumebière, et celui de l'accor. Donc vous pouvez voir à droite ces grandes balafres, en fait ce sont des haldes végétalisées. Et les petits points jaunes, ce sont les charbonnières que nous avons identifiées. Et à gauche, un sondage palynologique avait été réalisé par Didier Gallo dans les années 90. En plus de documenter ces sites archéologiques, nous avons réalisé deux fosses pédologiques à l'interface des espaces charbonniers et miniers, de manière à tenter de mesurer l'impact du charbonnage sur les stocks de carbone dans les sols et la composition intra-écologique des charbons dans les sols. Nous avons également ouvert une fosse pédo-archéologique à côté d'une tranchée minière très particulière. Donc vous pouvez voir sur la droite un front de taille qui est légèrement incurvé, de forme ronde, qui est en fait la trace de l'usage de la technique d'abattage par le feu. Et ces tranchées ont été reprises par les mineurs au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à l'explosif. Donc on s'est dit, tiens, il y a probablement des travaux anciens. Du coup, on a ouvert un sondage dans la halde associée à cette tranchée, donc les déblais miniers, qui présentaient des charbons de bois. Voici la coupe stratigraphique de cette fosse réalisée dans cette halde, qui nous a permis de mettre en évidence que la partie supérieure de la halde est composée en réalité de déblais anciens qui ont été excavés par les mineurs au XVIIIe siècle pour dégager des travaux anciens et pouvoir travailler à l'explosif. La partie centrale de cette coupe est constituée de la halde ancienne à proprement parler, qui repose sur un niveau riche en galènes argentifères. Et enfin, le bas de la coupe, ce sont des déblais liés au démarrage de l'activité où nous avons retrouvé des gros charbons de bois à la base. Nous avons évidemment prélevé ces charbons de bois pour une datation radiocarbone et les fragments de galènes ont été prélevés pour identifier leur signature isotopique. Parallèlement, nous avons réalisé des prélèvements de sédiments pour étudier les charbons de bois contenus dans ces remblais et restituer la forêt qui a été exploitée par les mineurs. Donc nous avons réalisé des prélèvements de galènes dans ce secteur des argentières. Là vous avez un relevé des travaux qui est sur le modèle numérique de terrain. Et à l'accor, donc de l'autre côté, nous avons également, suivante, prélevé des minerais dans un travers-banc réalisé au XVIIIe siècle, bien documenté par les textes. Voici les résultats des analyses isotopiques. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a une empreinte isotopique différente pour les deux secteurs miniers. Vous voyez la tache verte qui concerne les travaux de l'accor et la tache bleue qui concerne ceux des argentières. La datation radiocarbone montre que ces travaux miniers ont été réalisés à la fin de l'âge du fer, début de l'époque romaine. Donc il s'agit des travaux miniers les plus anciens repérés sur ce secteur. Vous avez ici le résultat des analyses anthracologiques, donc l'étude des charbons de bois. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à travers l'étude de ces charbons de bois, nous avons pu restituer un paysage composé d'une hêtraie sapinière qui était à l'époque encore dominée par le sapin. Des petits tests statistiques prouvent qu'on a ici un milieu qui était peu dégradé et donc qui suppose une anthropisation de ce secteur, donc l'arrivée de l'homme, très liée à la découverte de ces minerais et un développement de l'activité, une installation humaine qui est connectée à la découverte de ces minerais. Donc on a retrouvé 31 charbonnières dans ce secteur, échelonnées entre 1400 et 1700 mètres d'altitude. Et le paysage actuel est constitué d'une hêtraie issue de taillis vieillis. Donc on a sélectionné 12 charbonnières pour réaliser une première série de datations radiocarbone. Et parallèlement, nous avons réalisé un échantillonnage des charbons de bois contenu dans ces replats de charbonnière par carottage pédologique. Voici le résultat des datations radiocarbone. Vous avez les courbes de calibration radiocarbone qui sont présentées à votre gauche, qui révèlent une activité de charbonnage qui s'étire entre le 15e siècle et le 20e siècle, avec trois phases qui peuvent être mises en évidence. Une première aux alentours de 1450-1600 qui correspond historiquement au fonctionnement de la mouline de Castelminier. Ensuite, une intensification de l'activité du charbonnage entre les 17e et 18e siècles qui correspondent au pic de la métallurgie du fer et qui correspond aussi à la période où a été réalisée la copie du traité d'échange fer-charbon. Cette copie suppose qu'il y a eu des discussions et des problèmes en relation avec cet échange, peut-être connecté avec des problèmes d'approvisionnement en bois. Et enfin, une dernière phase, 1800-1900, qui correspond à la fin et au ralentissement de ces activités avec qui se maintiennent jusqu'au XXe siècle et qui s'en suivent par la fermeture de la mine du Rancy. Concernant les données anthracologiques et des charbonnières. Les charbonnières les plus anciennes sont celles qui sont localisées le plus haut en altitude. Elles sont composées principalement de hêtres associées au sapin qui est parfois dominant dans certains secteurs. Ensuite, les charbonnières plus récentes sont constituées principalement, voire uniquement de hêtres, sauf certaines qui sont situées à la limite actuelle entre la hêtraie avec régénération du sapin et la hêtraie. Ce qui suppose que déjà pendant les temps modernes, le sapin avait réussi à se maintenir dans les altitudes les plus hautes ou a réussi à survivre. Ici, vous avez les données palynologiques. Ce qu'il faut retenir dans ce diagramme, qui part des périodes les plus anciennes aux périodes les plus récentes, c'est que la période qui correspond à la fin de l'âge du fer, début de l'époque moderne et au premier épisode minier aux Argentières, donc à Aulus, correspond aussi à une baisse importante des fréquences du sapin et à une hausse des fréquences du hêtre, ce qui suppose une ouverture forestière connectée à des activités humaines. Et enfin, pour la période la plus récente, qui est documentée par l'histoire des charbonnières, donc le bas Moyen-Âge et l'époque moderne, on constate qu'on a une chute frappante du sapin et que notre être se maintient et même domine très largement. Et ça, c'est connecté à une expansion et à l'intensification de la métallurgie du fer qui a favorisé le être aux dépens du sapin. Donc vous avez ici une tentative de reconstruction de l'évolution de la forêt dans ce secteur depuis la fin de l'âge du fer jusqu'à nos jours, avec au départ une hêtraie sapinière dominée par le sapin et progressivement la disparition du sapin en favorisant le hêtre. On arrive à des taillis vieillis à la fin des activités industrielles et aujourd'hui une reprise de ces taillis qui se transforme en futaie et le sapin qui se régénère. Donc en termes de perspective de ce travail, on travaille sur le calibre des bois issus de chez Charbon de Bois avec une technique très particulière que je ne détaillerai pas mais qui va nous permettre de mieux caractériser le passage de la futaie au taillis dégradé. On va également intégrer les données des charbons de bois qui sont contenus dans les sols, qui nous donnent des informations sur la forêt in situ. Et enfin, nous avons ouvert d'autres fenêtres d'études à Bernadouze, où on a retrouvé des charbonnières qui sont même plus anciennes, datées du XIVe siècle, et à l'Hercoule avec le projet que pilote Jean-Paul, qui s'appelle La Pièce.
Alors, cette histoire du sapin est un peu particulière en Ariège, parce que si l'on regarde cette carte qui est celle de la répartition des sapinières à l'échelle pyrénéenne, on s'aperçoit qu'il y a un trou entre les peuplements orientaux Chaux, des grandes sapinières de l'Aude, de la Haute-Ariège, et les sapinières des Pyrénées centrales et occidentales. Et ce trou correspond à la vallée de la Haute-Ariège et au Couseran. Et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que je dirais le bioclimat est tout à fait favorable aux sapins, nous avons commencé à travailler sur un certain nombre de sites, donc celui de Sainte-Croix-Volvestre, que j'avais évoqué lors des dernières journées scientifiques, qui représente un peuplement tout à fait extrême dans sa situation sur le Piémont et qui a longtemps interrogé les forestiers et les écologues, et la région donc de Aulus-Vic-de-Sceaux, où l'on a très faible représentation du sapin. Alors pour ce qui est du Vic-de-Sceaux, nous basons aussi sur des acquis, des travaux sur l'histoire des forêts et un certain nombre de cartographies que nous comptons préciser, reprendre, approfondir. Là voilà donc dans les travaux de la thèse de Bernard Davas ce qu'était la forêt du Vic-de-Sceaux à la fin du XVIIe siècle, au moment de la fameuse réformation de Froidour, où l'on voit que bon, les forêts étaient encore relativement abondantes, avec surtout du hêtre, qui est en bleu en rayures, et un certain nombre de forêts de sapins. Là, c'est uniquement la région de la haute vallée d'Auzat, Goulier et Sem. Les vallées qui sont plus en bas, vers Miglot, vers Hercoul, etc., ne sont pas représentées. Donc, quelques peuplements de sapins résiduels et des forêts encore relativement abondantes. Et dans le cas de la forêt de l'Hercoul, les recherches précédentes ont fait apparaître une très grande ancienneté de l'exploitation pour le charbonnage liée à la mine de Rancier et aux filons qui sont de l'autre côté de la montagne, sur le côté de l'Hercoul. Et en particulier, nous avons inventorié et étudié un certain nombre de charbonnières, et la plus ancienne s'est avérée être datée à la base de l'Antiquité, donc 5e, 6e siècle, mais avoir été réutilisée tout du long d'un millénaire par les charbonniers sur le même site. Et l'on voit, strate après strate, la végétation changer. Alors là, c'est un peu à l'envers de ce qui se passe ailleurs en Ariège. À la base, on est vraisemblablement dans une forêt de sapins, de hêtres, je veux dire, il n'y a que du hêtre dans les charbons, et plus on monte dans les strates, plus on s'approche des périodes modernes, plus il y a de sapins. Or, qu'est-ce que ça signifie? C'est que vraisemblablement, à partir de l'expansion de la métallurgie au XIIIe, XIVe siècle, il y a eu des mesures de protection des dernières sapinières. Le sapin avait une valeur en tant qu'arbre de charpente, et dans certains endroits où l'on pouvait facilement organiser la protection, il a été privilégié pour conserver des peuplements en défense. Et voilà ce qui se passe ensuite au XIXe siècle. La forêt est protégée, il y a des règlements à l'échelle du Vic-de-Sceaux, mais il y a même une interdiction de charbonnage en 1740. Mais à partir du début du XIXe siècle, il y a une croissance de la pression sur les forêts qui s'amorce, qui est liée à l'augmentation de la population, mais aussi à une rupture de fait des règlements en cours. Et dans la première moitié du XIXe siècle, on va voir la forêt du Vic-de-Sceaux quasiment disparaître et n'être plus réduite qu'à des peuplements souvent de taillis extrêmement dégradés, surexploités, quelques peuplements de sapins résiduels, notamment dans la vallée de Goulier, de Sem, de l'Hercoul. Et c'est l'époque où d'ailleurs il y a également une très très forte pression pastorale sur l'ensemble de la vallée. C'est cette dernière phase, à la fois la longue phase d'un millénaire d'exploitation des forêts et puis la dernière phase de un ou deux siècles de surexploitation des bois est absolument indispensable pour comprendre le paysage actuel. Alors cette phase de surexploitation a été suivie par, d'une part, une crise rurale, la fin de la métallurgie qui a provoqué un chômage très important, donc des migrations, une crise également de la société rurale, un abandon des terroirs, des pâturages tout au long du XXe siècle, et un reboisement à la fois naturel, spontané et artificiel. Le Vic-de-Sceaux a été un des grands périmètres dits de restauration des terrains en montagne, où les forestiers ont implanté un grand nombre de reboisements en résineux, en particulier avec des pins ou des épicéas. Et si l'on regarde ce paysage-là, qui a l'air assez boisé, la seule végétation que l'on peut rattacher à l'histoire, on va dire, pré-19e siècle, c'est ça. C'est ici, c'est un vestige de hêtraie dans cet ensemble de boisements. Tout le reste, ce qui est vert, comme ce qui est au premier plan, ce sont des épicéas, ce sont des plantations. du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, et tout ce qui est dans les jaunes, ce sont des bouleaux, des chênes, qui sont des essences qui ont reconquis les espaces abandonnés à partir du début du 20e siècle. Du coup, voilà, une diversité qui est totalement pilotée par une histoire fort longue, et aujourd'hui, un cas, celui du sapin, qui est quand même d'une assez grande vitalité dans le Vic-de-Sceaux, parce qu'il a, comme dans tout le reste des Pyrénées, et les Pyrénées depuis les Hautes-Vallées jusqu'au Piémont, où on l'a retrouvé à Sainte-Croix-Volvestre, et on a pu montrer que ce n'était pas une anomalie, mais c'était le vestige d'une forêt beaucoup plus importante dans le passé. Donc le sapin est aujourd'hui un arbre d'avenir, probablement, dans les espaces en transformation que sont les forêts pyrénéennes. Et alors, si on revient sur ce qu'étaient les forêts du Vic-de-Sceaux et la répartition du sapin au XIXe siècle, quelles sont les hypothèses? C'était potentiellement une sapinière, à voir les résultats que l'on a dans les autres secteurs au niveau de la paléoécologie et de l'histoire. Et l'objectif est d'essayer de reconstituer cette évolution du paysage, des sapinières depuis la longue durée de l'occupation humaine, et de jeter ainsi un nouveau regard sur les dynamiques contemporaines. Et si on fait une cartographie très très hypothétique de ce que pouvait être le paysage avant l'intervention humaine, c'est-à-dire il y a au moins 6000 ans, potentiellement l'ensemble du Vic-de-Sceaux est concerné par l'ère du sapin. Ça, c'est pas une cartographie du sapin il y a 6000 ans, c'est potentiellement les sapinières pouvaient être répandues du bas jusqu'en haut des vallées, jusqu'à 1900 mètres, où c'était à ce moment-là les pinèdes qui prenaient le relais. Et on avait des forêts qui étaient mélangées probablement de chênes, sachant que le hêtre apparaît assez tardivement. Donc, sur la base de ce constat, sur un certain nombre de sites, vise à préciser aujourd'hui les différentes phases de transformation du paysage et les évolutions parfois contradictoires, puisque, comme on l'a vu, dans certains endroits, durant l'Antiquité, on part d'une sapinière dominante, dans d'autres, on est déjà dans une haie très dominante, alors que le hêtre est arrivé relativement récemment dans ces lieux. Voilà, je vous remercie.